Le journal Mimi Ngumba Moulongo. Les titres du journal de condamnés à mort retournent à la prison centrale de Mbuji-Mayi, un retour qui ne rencontre pas leur consentement. Cela après avoir passé 3 mois ailleurs à la suite d'une tentative d'évasion. Enrôlement des électeurs, les différends entre société civile et Congolais d'origine rwando-burundaise viennent d'être réglés. Le vice-gouverneur a tranché. Ces personnes ont la nationalité congolaise, donc potentiel électeur. Fini le choléra à Mahagi Padea en Ituri. La maladie avait fait 3 morts il y a 2 semaines. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant de vous développer ce titre, manifestation des infirmiers et autres paramédicaux devant l'inspection médicale provinciale à Mbuji-Mayi. Depuis ce matin, plus de 200 personnes font un sit-in devant ces bureaux. Elles réclament leur prime de risque, prime payée aux médecins le mois dernier. Nous rejoignons Basile Bakumbane en direct de l'hôpital Kinsele.
Oui Mimi, on ne bouge pas des pas si notre prime de risque n'est pas libérée. C'est en ces termes que s'exprime plus de 200 infirmiers et autres paramédicaux du secteur public en sit-in devant le secteur médical provincial du Kassai oriental depuis ce matin. D'après ces manifestants, personne ne va sortir de ce bureau si l'argent n'est pas payé. Ils affirment avoir reçu un message du secrétaire général de la Santé demandant aux médecins secteur provinciaux de payer cette prime aux paramédicaux en ayant 7 jours. Cela à partir du 21 septembre dernier. Ils disent ne pas comprendre pourquoi cela traîne alors que les médecins sont à leur 2e mois de prime. Ils évoquent également les cas de leurs homologues de Kinshasa qui ont déjà touché cette prime. Pour le médecin inspecteur provincial ad intérim, il s'agit d'une mauvaise interprétation du message. Selon lui donc, ce message demande l'harmonisation des listes de ce personnel en ayant 7 jours. Malgré les explications, les manifestants préfèrent déserter les hôpitaux pour continuer les sit-in. La police tente de les calmer, mais rien ne marche jusqu'à là. Depuis l'hôpital Kinsele de Mbuji-Mayi, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Restons dans cette ville du Kassai oriental pour parler du retour hier mercredi en début d'après-midi des détenus condamnés à mort à la prison centrale de Mbuji-Mayi. Un retour qui se fait dans la violence après 3 mois passés dans les cachots de la 5e région militaire à la suite d'une tentative d'évasion de la prison centrale le 30 juin dernier. Le détail avec Julien Nyamouini.
Ils sont plusieurs dizaines à avoir regagné la prison centrale de Mbuji-Mayi. Tous ou presque étaient condamnés à mort par la justice congolaise à cause des divers crimes qu'ils auraient commis. Jean-Claude Mouloa, directeur de la prison centrale de Mbuji-Mayi, a indiqué que ceux condamnés à mort, aussitôt arrivés, ont détruit les portes de plusieurs cellules de la prison. Une prison, affirme-t-il, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, malgré une réhabilitation récente. 4 jours de plus suffiraient pour que le mur de la prison s'écroule en raison de plusieurs fissures, conclut-il. À propos de cette réhabilitation controversée, les organisations des droits de l'homme soutiennent qu'elle a consisté seulement à l'installation d'un nouveau portail, de portes des cellules, une couche de chaux et le bouchage des trophées au mur par des prisonniers. En conséquence, ils proposent le transfert de tous les condamnés à mort à la prison de haute sécurité de Buloa, au Katanga. Julien Nyamouini, Mbuji-Mayi, Radio Okapi.
Et puis au Katanga, les bureaux de la MONUC Lubumbashi s'insurgent contre les arrestations arbitraires opérées par les agents de l'ANR de cette province. Des personnes sont détenues plus longtemps que prévu dans les cachots de l'ANR où elles subissent des tortures. Les derniers cas en date est celui de 4 chauffeurs de l'entreprise minière Anvil Mining, arrêtés le 19 septembre dernier sur les lieux de travail par des agents de l'ANR. Ils sont accusés d'avoir volé les carburants de l'entreprise. Curieusement, les responsables de cette entreprise disent ne pas être plaignants. Radio Capi a demandé au procureur de la République si la procédure a été respectée dans cette arrestation. Médard Louyamba répond au micro de Donat Chimboj.
L'ANR, c'est une institution un peu spécialisé de manière extraordinaire et où il y a des officiers de police judiciaire à compétence générale. Mais ces officiers de police judiciaire à compétence générale, s'ils tombent sur un cas infractionnel de droit commun, ils ont l'obligation, en tant qu'officiers de police judiciaire à compétence générale, de déférer le cas au parquet des grandes instances pour disposition et compétence. À moins qu'il s'agisse d'une situation autre qu'une infraction ordinaire de droit commun.
Sachez aussi qu'après la visite des officiers de la MONUC à l'ANR Katanga, les quatre chauffeurs sont relâchés depuis samedi dernier. Ils affirment avoir été fortement torturés et sont suspendus préventivement de leurs fonctions. Rendons-nous à présent au Sud Kivu pour parler de l'intégration militaire. Une première brigade brassée a été promue hier après-midi par la structure militaire d'intégration. Plus de 2000 soldats composent cette brigade. Ils sont originaires des anciennes composantes MLC, RCD, gouvernement, Maïmaï et Masunzu. Leur prochaine affectation n'est pas encore connue. Le général Kisempia, chef d'état-major de forces armées de la RDC, était présent à la cérémonie. On l'écoute au micro de Michel Chirimwami.
Après le brassage et le recyclage de la première brigade à Kisangani, de la deuxième à Kitona, de la troisième à Kamina, de la quatrième à Mushake, de la cinquième à Nyaleke et la sixième aujourd'hui à Luberizi, nous pouvons affirmer que l'intégration de nos forces armées a atteint sa vitesse de croisière et nous croyons fermement qu'elle atteindra effectivement les objectifs fixés par le gouvernement pour la bonne tenue des dites élections.
Comme annoncé dans le titre, les différends qui ont opposé il y a trois semaines la société civile de Kalima aux Congolais d'origine rwando-burundaise dans les territoires de Pangui lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs viennent d'être aplanies. Le vice-gouverneur du Maniema vient de trancher net. La loi congolaise, a dit l'autorité provinciale, reconnaît à cette catégorie de citoyens la nationalité congolaise. Reportage Mathieu Ilunga.
Le différend est né il y a trois semaines avec le début des opérations d'identification et d'enrôlement. La société civile a refusé l'enrôlement de certains habitants de Kalima, descendants de personnes venues du Rwanda et du Burundi, il y a un demi-siècle. Les différentes interventions des responsables de la commission électorale indépendante n'ont pas réussi à calmer les ardeurs. Certains candidats à l'enrôlement se sont vus refuser d'obtention de leur carte de lecteur et parfois avec violence. Un des victimes raconte.
J'étais frappé au niveau de Cité Kakucha dans ma maison de me parler que je ne suis pas un Congolais, je suis un Burundais et me monter un pillage systématique et je suis arrivé maintenant de prendre la fuite et de me diriger vers Kindu.
La société civile de Kalima, qui s'oppose à l'enrôlement de ces quelques 2000 personnes qu'elle considère comme rwandaises ou burundaises, n'est pas satisfaite des explications du gouverneur des provinces. Mukanya Chamalenge, vice-président de la société civile de Pangui.
La communauté se prépare pour introduire une action en justice. Parce que c'est un problème politique qui va coûter cher à ce pays le lendemain.
Pour le vice-gouverneur du Maniema en charge de l'administration et des questions sociales, l'ignorance et la mauvaise interprétation de la loi sont à l'origine de ces différends. Il lance un appel au calme. Massoud Mendes, vice-gouverneur.
Beaucoup de Congolais résidant dans Pangui méconnaissent et ne savent pas interpréter la loi sur la nationalité. Toute personne ayant vu le jour au Congo à partir de 1960, plus précisément le 30 juin, il est Congolais.
Il faut espérer que ce message ne tombe pas dans les oreilles des sourds. De Kindu, Mathieu Ilunga, Radio Okapi.
Processus électoral encore à Bukavu où les opérations d'enrôlement ont pris fin depuis dimanche 18 septembre. Mais les opérateurs attendent toujours d'être payés. Tous se demandent où se situent les blocages. Chargés du financement et de salaire, les PNUD ne souhaitent pas se prononcer sur la date exacte du paiement. Adolphine Ngoy pour plus de détails.
Une trentaine d'opérateurs se sont postés ce matin à la porte du bureau provincial de la CEU. Leur colère est manifeste.
Nous venons juste pacifiquement devant le bureau demander notre droit, qu'on nous dise à quand, puisque personne ne veut donner la précision, personne ne veut même discuter avec nous. C'est comme si on se moquait de nous après que nous ayons travaillé. Et PNUD APEC qui nous a dit, voilà, bientôt, on vous paye. Elle est bientôt, il y a deux semaines.
Pas de détails non plus du côté de la CEU. Les coordonnateurs ne paient qu'en appeler à la patience des opérateurs de saisie. Godens Maeshi.
La communauté internationale et nous-mêmes ne pouvons pas faire travailler quelqu'un sans lui payer quelque chose. C'est grâce à leur travail que le référendum sera organisé bientôt. Donc qu'ils en soient loués et qu'ils continuent à patienter.
Pour payer les opérateurs de saisie, la CEU dépend des PNUD qui gèrent les fonds de soutien au processus électoral. Les listes exactes des opérateurs de saisie ont cependant tardé à parvenir aux PNUD. Contacter les PNUD affirme que le paiement est en cours sans plus de détails. La patience des opérateurs est encore mise à l'épreuve. De Bukavu, Adolphe Ngoy, Radio Okapi.
Élection toujours, les bureaux de représentation de la CEI Bas-Congo entrent dans la deuxième phase du processus de préparation aux élections, à savoir la campagne de vulgarisation de la loi référendaire et du projet de constitution qui sera soumis à la sanction du peuple dans les mois qui viennent. Le lancement officiel de cette campagne de vulgarisation a eu lieu mardi dernier dans la salle du Ciné-Palace de Matadi. Reportage Claude Bousset.
Devant les autorités politico-administratives du Bas-Congo, les représentants des confessions religieuses, des partis politiques, des organisations de la société civile et des mouvements associatifs de la province, le coordinateur de la CEI Bas-Congo a expliqué le sens de cette campagne qui, a-t-il dit, va commencer dans les grands centres territoriaux tels que Boma, Mwanda et Mbanzangungu, déjà la semaine prochaine, avant de se poursuivre à l'intérieur des centres ruraux. Il s'agit de la vulgarisation des options fondamentales de la loi référendaire et des options du projet de constitution. Cette vulgarisation se fera suivant un plan d'éducation civique arrêté par la CEI avec des textes traduits dans les langues nationales, a-t-il indiqué. Pour Hervé Diakiesse, cette campagne n'est pas un travail exclusif de la CEI. Sa réussite dépend de l'implication de tous les partenaires à travers les différents cadres de concertation existants. Réconforté par l'expérience de l'enrôlement et identification, Hervé Diakiesse croit fermement à la tenue de cette campagne dont dépend la réussite des élections. Claude Bousset, Matadi, Radio Okapi.
12h11 à Kinshasa, une heure de plus dans les districts de l'Ituri. Chapitre santé à présent. La population de Mahagi Padé, localité située à 56 km de Mahagi en Ituri, n'est plus menacée par le choléra. Il y a deux semaines, la maladie avait frappé la localité, faisant 3 morts. Mais des habitants croyant à la sorcellerie ont tué 2 autres personnes. Tout aurait commencé quand une famille a déterré la dépouille mortelle d'un de ses membres morts du choléra à Mahagi Port. Les détails, Jean Gomama.
Selon l'officier de liaison de Ocha Mayagi, il y a 2 semaines, une famille de Padéa est arrivée à Mayagi Port dans le but de récupérer les corps de leurs frères défunts. Ils ont déterré les corps et l'ont ramené chez eux à Padéa. Une fois à Padéa, a ajouté Noël Moshi, ils sont allés laver la camionnette qui avait transporté les cadavres à la rivière où ils se baignent et font la vaisselle. Au cours d'une cérémonie de réconciliation avec les supposés sorciers organisée par le chef de groupement de Padéa, a poursuivi l'officier de liaison des Ocha Mayagi, les habitants ont préparé une chèvre avec de l'eau et des ustensiles qu'ils ont lavés à la rivière. Quelques jours après, 3 d'entre eux meurent et plusieurs tombent malades. Au vu de morts et de malades, les membres des familles des victimes tirent à coups de machette 2 membres de la famille du prétendu sorcier et incendient 14 cases. Noël Moshi nous dira enfin que la lumière sur cette affaire est arrivée de la délégation conjointe de la MONUC, de la police d'intervention rapide Mahagi et le médecin de la zone de santé de Nyarambe. Sur base des signes que présente le malade, le médecin de la délégation a confirmé qu'il s'agit d'un problème de choléra. Malheureusement, les habitants ont confondu la maladie avec de la sorcellerie. Pour le moment, les autorités de la zone de santé affirment que les conditions sanitaires sont sous contrôle. Bounia, Jangoma Makoko, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, 162 cas dont 3 décès de choléra ont été enregistrés au centre de traitement de choléra de l'hôpital général des références de Kalemi au Katanga. C'est depuis le début de l'épidémie qui s'est déclarée le 5 septembre dernier. Les dernières estimations que fournit le médecin-chef de zone des santé de Niemba font état d'une baisse de cas admis par jour. Le docteur Pascal Guéry parle d'une gestion assurée de l'épidémie grâce au concours de la communauté locale. Il dresse ici le bilan de l'épidémie. Il est au micro de François-Xavier Mibé.
On a commencé avec 11, 12, 13 cas par jour. Aujourd'hui, alors nous parlons, nous sommes à 4 cas, 2 cas par jour. Nous avons ressuscité les comités de chloration. Nous avons pris les relais communautaires et la Croix-Rouge nationale. Au niveau de la zone santé de Niemba, nous avons 10 sites de chloration. Et au niveau de la zone santé de Kalemi, nous en avons 6. Et le travail de la chloration commence de 5h30 jusqu'à 18h. On a fait une sensibilisation dans les lieux publics. On a informé la population que c'est une maladie hydrique. On l'a attrapé en mangeant, en s'essuyant les mains, en prenant l'eau qui n'est pas chlorée, qui n'est pas bouillie, en mangeant les aliments qu'on a qui sont exposés sur terre, qui ne sont pas couverts. Nous voulons que ça puisse être avec les relais communautaires, avec la Croix-Rouge nationale, pour que même après ces pics épidémiques, que la population puisse comprendre qu'en mettant les chlores dans l'eau, en chlorant l'eau, en la bouillant, les risques sont amoindris.
En rapport avec cette épidémie, sachez que l'UNICEF a fait un don des intrants nécessaires et l'ONG Médecins du Monde France en a assuré leur acheminement. En dehors de nos frontières, la Belgique a lancé un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président tchadien Hissène Habré, réfugié au Sénégal pour violation grave du droit humanitaire international. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la ministre de la Justice, Laurette Ankelix. Ce mandat d'arrêt a été délivré le 19 septembre par les juges d'instruction bruxellois Daniel Francen. Fin de cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi.